Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors en podcast aussi sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Françoise Barraud, bonjour.
Bonjour.
Et de Fabien Giverneau, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour le parti de l'écologie, pour une écologie populaire et sociale, et aussi pour nous parler des rencontres de l'écologie populaire et sociale qui auront lieu du 23 au 26 août à Vesc, pas loin de Dieulefi. Pour ça, 4 journées très denses, hein, en événements, en culture, en conférences, en échanges aussi de paroles. Et donc, pour vous, on peut peut-être avant tout présenter le parti pour une écologie populaire et sociale.
Oui, alors du coup, nous, on est un mouvement politique. On ne se considère pas vraiment comme un parti parce qu'on fonctionne un peu différemment, on va dire. Mais voilà, du coup, c'est un mouvement politique qui s'est fondé il y a 2 ans. Voilà, un peu plus de 2 ans, fin 2019. Entre-temps, ça a été un peu compliqué avec la situation sanitaire. Mais voilà, donc c'est un parti politique d'écologie sociale qui prône des valeurs assez radicales au niveau environnemental, au niveau d'antiracisme, au niveau de choses comme ça. Voilà, on s'inspire beaucoup des luttes qu'il peut y avoir. Donc il y a beaucoup de gens, notamment, qui viennent des Gilets jaunes, des mouvements zadistes. Des luttes syndicales, des luttes culturelles aussi. Voilà, donc après quoi dire de plus, on est un jeune mouvement, ça va être la 2e édition qu'on fait sur ces rencontres. L'année dernière, c'était à Recoubo, donc toujours dans la Drôme. Ça va être un franc succès parce qu'on avait accueilli à peu près 250 personnes sur 4 jours. Voilà, donc on espère. Donc cette année, on revient aussi dans la Drôme, donc pas dans le même lieu parce que le gîte... n'est plus un gîte actuellement à Recoubo, ça a été vendu. Mais voilà, on a trouvé un autre endroit, Vers Dieulefi, pour faire ça. Et c'est vrai que ces rencontres sont un peu à l'image justement de ce qu'on a envie de défendre aussi, c'est-à-dire on est avant tout une organisation d'éducation populaire où on pense que l'éducation populaire, la culture sont aussi des outils de politique et d'émancipation et de transformation sociale. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers d'éducation populaire, il va y avoir des choses plus universitaires ou militantes comme des tables rondes, des conférences, il va y avoir aussi des conférences gesticulées, des concerts, des spectacles. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on est entre, on va dire, le collectif, PEPS, du coup, c'est vraiment une organisation politique entre un collectif de lutte et un parti politique, en fait. On veut être à cheval entre tout ça pour regrouper un peu toute la famille de l'écologie radicale qui est actuellement où il n'y avait pas vraiment de... Donc du coup, l'objectif, c'est de rassembler un peu toutes ces familles-là. Ça existe un peu partout en France. Après, on n'est pas structuré dans toutes les régions de France, mais il y a des militants un peu partout, quoi.
Comme vous le disiez, donc une famille, des familles sans parti, hein, quelque part. Vous n'aviez pas pour vous de repères possibles dans ce qui est déjà proposé en parti politique dédié à l'écologie ?
Non, après il y a des gens qui viennent parce que dans PEPS on n'est pas forcément que membre de PEPS. Il y a des gens qui viennent de la France Insoumise, qui viennent du NPA, qui viennent d'Europe Écologie, des gens qui viennent des réseaux plutôt libertaires ou qui viennent d'aucun endroit structuré forcément. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de rassembler justement parce qu'on... Enfin, voilà, pour nous, on n'est pas forcément en accord, que ce soit sur des fonctionnements démocratiques ou sur des systèmes plus libéraux comme Europe Écologie Les Verts, par exemple. Du coup, voilà, c'était l'idée aussi de rassembler vraiment un mouvement d'écologie politique anticapitaliste qui n'existe pas vraiment à l'heure actuelle.
Quelle représentativité avez-vous actuellement ?
Au niveau de... Pour moi, on n'a pas vraiment de représentativité, dans le sens où déjà, on refuse... pour moi, c'est un débat entre nous, mais pour moi, ça n'a pas été acté, donc on ne le fait pas. On refuse d'avoir des porte-parole, par exemple. Donc déjà, c'est vrai qu'au niveau médiatique, c'est un peu compliqué. Mais après, on a des élus à certains endroits. On a des gens qui sont quand même bien engagés sur des mouvements de lutte dans leurs régions respectives. Nous, par exemple, à Grenoble, on a coordonné le mois décolonial qui a eu un retentissement national. voilà, une presse, on va dire, retentissement médiatique. Puis ça a quand même bien marché. Donc c'est vrai qu'à certains endroits, on va dire qu'on est quand même assez représenté. À d'autres, beaucoup moins, voire pas du tout. Donc voilà, vu qu'on existe aussi depuis peu de temps, c'est aussi l'idée de se faire connaître, de structurer. Et là, on passe plus de temps d'abord en interne à se structurer, à savoir comment on fonctionne, avant de faire des campagnes d'adhésion ou des élections, par exemple, parce que tant qu'on n'est pas structuré, si on rentre directement dans des jeux électoraux, on s'aperçoit vite qu'on est mangé par des personnes qui ont vite plus d'avoir une carrière politique que des idées.
Ouais, c'est donc, un peu ce qui nous arrivait dans la Drôme. Hein.
Ouais, voilà, c'est
dans
ça.
La Drôme, on avait été approché par une union de partis de gauche. Et on est allé à quelques réunions et on s'est aperçu qu'on n'avait pas notre place dans ces tractations politiciennes, quoi. Nous, on avait des lignes rouges qui sont pas d'artificialisation de terres agricoles, une prise en compte de tous les plus pauvres, une prise en compte de la ruralité. Et on s'apercevait qu'en face de nous, on avait des gens qui parlaient de postes et de carrières. Donc on s'est retiré du jeu.
Justement, lors de prises de parole, beaucoup se taisent parce que je crois qu'on, même s'ils se mettaient à parler, on ne les écouterait pas forcément parce que il y a aussi cette difficulté d'expression, de s'exprimer aussi parfois. Est-ce que vous êtes plus à l'écoute de ces personnes qu'on n'écoute jamais en quelque sorte?
Je ne sais pas si on est plus à l'écoute, parce que ça serait prétentieux de dire ça. En tout cas, dans l'idée, c'est qu'on est d'accord avec le constat que vous faites, en tout cas. Et on essaye de permettre à des personnes dont on entend moins de s'exprimer. Par exemple, pour citer deux, trois exemples, mais on est beaucoup investi sur les jardins ouvriers à Aubervilliers. Et les personnes qui représentent PEPS, il y a une anecdote assez intéressante où il y avait Julien Bayou, Clémentine Autain, les candidats de gauche au régional en Ile-de-France qui étaient présents et qui représentaient chacun leur mouvement politique. Et puis nous, c'était une prolo, fils d'immigrés et qui a pris la parole, pas forcément avec un français comme on entend dans les médias habituellement. Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce que ces gens-là, ils font partie, c'est des citoyens à part entière. Et donc voilà, du coup, à Grenoble, sur le mois décolonial, on a permis aussi à des personnes de s'exprimer, qui s'expriment très peu médiatiquement, ou en tout cas qui n'ont pas vraiment la place, parce que quand on parle d'antiracisme, c'est souvent des hommes blancs d'un certain âge qui discutent d'antiracisme, sans vraiment donner la parole à ceux qui subissent, en fait, le racisme et les discriminations. Donc c'est vrai que nous, on est quand même beaucoup attachés, justement, à donner la parole, en fait, aux gens qui sont touchés par la thématique. Notamment, là, on peut le voir sur les rencontres cet été. Là, il y a toute une thématique sur le validisme aussi. Donc, c'est-à-dire que la société, elle est pensée par des personnes valides et bien portantes, généralement. Et du coup, quelle place on donne, par exemple, à des personnes handicapées qui sont en fauteuil ou autre. Et du coup, voilà, il y a aussi tout ça. On est dans une société, on fait monde. Et du coup, chacun est différent et chacune est différente. Et du coup, comment on vit avec chacun, quoi.
4 journées denses, hein, je disais, en début d'émission. Et puis, vous aviez déjà parlé un peu de ce qui serait abordé, l'écoféminisme. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce terme, écoféminisme?
Et du coup, l'écoféminisme, donc, c'est un terme qui apparaît. Alors, c'est un courant qui est quand même assez ancien. Ça a plus de 50 ans, 60 ans. C'est Françoise Daubonne, une Française, qui l'a un peu popularisé. Mais c'est un courant qui vient plutôt d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, notamment par les personnes autochtones, quoi, de ces pays-là, qui ont été colonisés. Et du coup, c'est donc la philosophie. Après, il existe plein de courants écoféministes. Mais en tout cas, nous, le courant qu'on a envie de défendre, un des courants qu'on a envie de défendre, c'est aussi dire que déjà, il y a une domination de l'homme sur la nature, sur le reste de la nature, et il y a une domination de l'homme sur la femme. Et cette domination, en fait, elle est due à un système patriarcal, et qui est le même, en fait, et qui est une envie aussi de dominer, donc aussi bien les animaux, les autres animaux, la nature, les femmes. Et donc ça, le constat, il part de là. Et donc, du coup, l'écoféminisme, c'est s'attaquer à la racine même du patriarcat, en disant que si on arrive à se débarrasser du patriarcat aussi, finalement, on se rentrera dans une société un peu plus écologique. Et on peut le voir, par exemple, sur toutes les études anthropologiques ou toutes les sociétés matriarcales, il y avait très peu de guerres, il y avait très peu de domination sur la nature. Il y avait, il y avait beaucoup moins de conflits et tout ça. Et donc c'est aussi revenir à ça. Et puis, c'est aussi dire que... nos corps, ils nous appartiennent, et comment les femmes, en fait, se réapproprient aussi leur corps par le système de santé, de soins, sur la sexualité, sur beaucoup de choses, qui est encore des corps, en fait, qui sont contrôlés bien souvent par des hommes. Et donc les courants écoféministes. Après, on n'est pas dans une conception forcément très spirituelle, enfin, pas que spirituelle, en tout cas. Et c'est aussi comment on converge... dans les mouvements féministes, il y a plein de désaccords et voilà. Et nous, en tout cas, on a envie de faire converger ces courants écoféministes avec les courants, ce qu'on appelle les courants de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire que chacun ne vit pas les mêmes dominations. Si on est une femme, si on est musulmane, si on est racisé, si on est riche, si on est pauvre, si on vient d'un milieu rural, urbain, enfin voilà, on a chacun des dominations et chacune domination. Et donc, du coup, c'est aussi faire converger en fait tout ça. On part pas tous sur le même pied d'égalité, quoi.
Ensuite, il y a l'abord du communalisme. Alors ça, c'est un terme aussi à découvrir en quelque sorte, ou peut-être à présenter.
Oui, ça c'est un terme qui est revenu dans les discussions, notamment beaucoup aux dernières élections municipales, mais aussi par le biais des Gilets jaunes. Après, il y a eu Assaillant pendant 5 ans, un exemple. Mais du coup, voilà, nous, donc au communalisme, et l'autre mot aussi, c'est l'écologie sociale. On s'inspire beaucoup d'un penseur américain qui est Murray Bookchin, qui a théorisé justement le municipalisme libertaire. Nous, on part du postulat que l'État, jacobin, centraliste, c'est là où on se différencie énormément de la France insoumise, par exemple. Pour nous, c'est pas la bonne forme. D'administration, de gouvernance et tout ça. Et on pense qu'il faut revenir à des échelles beaucoup plus locales de décision. Et on le voit très bien avec le Covid, par exemple, là, où c'est des décisions qui sont prises par Paris, pour Paris. Et en fait, ça s'applique à partout en France. Et on n'a pas les mêmes difficultés rencontrées quand on habite dans le Cantal, par exemple, qu'à Paris. Enfin, voilà. Et donc, du coup, là, c'est aussi revenir à des échelles beaucoup plus petites de décisions, mais pas que de décisions. C'est aussi comment on va favoriser les cultures locales. Donc, dans les cultures locales, il va y avoir les langues régionales, il va y avoir l'agriculture, il va y avoir tout un tas de choses, en fait, l'alimentation, l'habitat, l'urbanisme. Et tout ça, en fait, c'est ça aussi qu'on a envie de valoriser, et que là, actuellement, les décisions, enfin l'État-nation comme nous on connaît actuellement, c'est pas quelque chose c'est pas un modèle démocratique qu'on a envie de défendre. Et on pense que du coup, les gens ont de moins en moins envie de défendre aussi ce modèle-là, et ça se voit notamment sur les résultats électoraux, où il y a quand même maintenant même plus une personne sur trois qui va voter. Donc c'est quand même assez catastrophique, et parce que les gens se sentent plus vraiment en fait déjà ni l'utilité ni forcément investis sur la vie démocratique en France. Et pourtant tout le monde en parle de la politique quotidiennement. Donc c'est que les gens, c'est pas qu'ils s'y intéressent plus, mais en tout cas c'est qu'ils y croient plus forcément sur ce modèle-là. Et donc on pense qu'effectivement, en redonnant de la décentralisation dans la vie démocratique, ça pourra que s'améliorer le débat démocratique.
Nous allons passer au programme. Et donc, ça commence donc le lundi 23 août à 11h avec un accueil suivi d'une construction de mouvements et rencontres des militants de... Et je voulais savoir qu'est-ce qui se produit à ce moment-là dans cette construction.
Alors le lundi, c'est vrai que le début d'après-midi, il est plus réservé aux personnes qui sont déjà investies ou qui ont envie de connaître, en tout cas, PEPS. Donc c'est plutôt nous, comme on l'a dit, on est en période de Covid, ça a quand même été assez compliqué de se voir. En vrai, c'est limite impossible. Donc c'est vrai que les visios, c'est sympa, mais en fait, sur court terme. Et puis, en fait, il y a plein de personnes qui ne participent pas aux visios. Françoise en fait partie, et je peux comprendre complètement. Et donc, du coup, voilà, c'est l'idée aussi de se dire, à force de se parler au loin ou peu se rencontrer, c'est aussi prendre une journée pour nous, pour apprendre à se connaître déjà, à savoir comment on communique entre nous, comment on fonctionne. Comme je répète, mais on est un jeune mouvement politique, donc du coup, il y a... pour nous, la construction, en tout cas, de l'organisation et de l'interconnaissance est primordiale pour qu'on puisse avancer collectivement. Donc c'est vrai que cette journée, elle est plutôt destinée à ça, en tout cas en début d'après-midi, parce qu'après, en fin d'après-midi, il y a une conférence gesticulée ou une pièce de théâtre, par exemple, qui sont là, ouverts à tout le monde, même si le reste de la journée est ouvert à tout le monde. Mais en tout cas, c'est plus des gens qui sont intéressés par l'organisation du mouvement.
Une conférence gesticulée, donc, justement, qui rejoint l'écoféminisme, puisque ça traitera de cette dépossession et des savoirs qu'ont subi les femmes depuis quelques siècles, hein, déjà. Et puis, à la suite, théâtre avec Fred Dubonnet qui proposera La ferme du bois fleuri.
Tout à fait. Donc,
un
là,
spectacle
en plus,
que vous avez déjà vu.
Alors, je ne l'ai pas vu parce que c'est un nouveau spectacle qui a été créé là pendant le Covid.
Ok, bon,
mais
comprends.
En tout cas, Fred Dubonnet... non, mais je peux en parler parce que du coup, oui. Fred Dubonnet, c'est quelqu'un qu'on connaît parce que moi, j'ai vu ses autres spectacles et c'est quelqu'un qui a emménagé justement dans la Drôme, comme Catherine aussi d'ailleurs. Donc, les deux artistes là, c'est deux nouvelles personnes de la Drôme. Et donc, voilà, donc Fred, il a été pendant 2 ans... interroger des paysans voilà, pour faire son spectacle. Et du coup, là, c'est voilà, partir de cette dualité dans le monde agricole aussi qu'on retrouve souvent entre peut-être des néo-ruraux et des ruraux plus traditionnels avec ce combat entre agriculture intensive, agriculture plutôt paysanne. Et donc, du coup, c'est voilà, comment... Parce qu'on a beaucoup tendance à critiquer justement l'agriculture intensive et tout ça, mais l'important, c'est aussi de le comprendre et comprendre la difficulté de changer de modèle de production, par exemple, ou les traditions, les habitudes et tout ça. Et donc, ce spectacle, il vient interroger tous ces points de vue là-dessus.
Mardi 24 août, nous passons donc à 9h30 avec des propositions d'ateliers, de conférences. Et voilà, et donc on va mettre un petit peu ça au détail. Atelier autour de la science et de la libération des femmes et de la nature et de la société par le mouvement des femmes kurdes. Donc là, ça fait quand même deux thèmes en un seul, en quelque sorte.
Bah, on a la chance cette année d'accueillir des femmes kurdes et d'autres femmes du mouvement des femmes kurdes, parce que maintenant c'est un mouvement internationaliste. Et enfin, ça l'a toujours été, mais elles ont été rejointes par des femmes un peu du monde entier. Voilà, où les Kurdes, notamment du Rojava et d'autres endroits, c'est un peuple qui lutte actuellement et depuis pas mal d'années, qui lutte aussi bien face à Daesh, mais aussi bien face aux dictatures que peuvent être la Turquie ou l'Iran, par exemple. Et donc du coup voilà, et c'est cette lutte notamment, elle est portée donc eux ils représentent, pour nous le Rojava en tout cas et les Kurdes représentent ce qu'on porte politiquement, c'est-à-dire une lutte féministe internationaliste mais aussi du municipalisme social, dans le sens où ils sont beaucoup inspirés de Bouchkine et ils fonctionnent par communalisme là-bas et c'est surtout les femmes en fait qui contrôlent à peu près tout et du coup voilà, c'est, on a envie aussi de montrer que ça existe, que c'est possible. Et on propose de rencontrer ces femmes autour de plusieurs ateliers et de tables rondes.
Vous pouvez préciser, Bouchkine ?
C'est un penseur américain qui a théorisé un mode d'action.
Bouchkine, c'est vraiment le penseur de l'écologie sociale dans le monde. Hein. C'est quelqu'un qui a écrit ses premiers bouquins dans les années 70, qui est mort il y a une trentaine d'années. Il y a encore sa femme qui publie d'autres bouquins à l'heure actuelle, qui s'appelle Janet Bill. Voilà, et du coup, l'écologie sociale, c'est quelque chose qui est repris maintenant dans le monde entier, notamment dans le Chiapas, donc là au Rojava, ou au Calan, qui était le chef du parti communiste kurde, qui a rencontré Bouchkine, et du coup, qui est passé du communisme au municipalisme libertaire, et du coup, qui a réussi à mettre ça en place au Kurdistan, quoi. Donc voilà, et du coup, c'était juste pour rappeler la référence un peu de Murray Bouchkine, qui sera... Qui est un peu un des penseurs qui nous inspire fortement, on va dire. Ouais. Même si maintenant, effectivement, on est aussi plusieurs décennies plus tard, il y a d'autres choses qu'il faut remettre en contexte. Enfin voilà, mais en tout cas, ça nous inspire beaucoup.
Dans le même temps, donc, une conférence avec une discussion ensuite à propos de biodiversité menace sur le vivant par Florian Alberto. Alors, peut-on présenter Florian Alberto ?
Ouais, bah, pour le coup, c'est un grenoblois, donc je vais le présenter. Florian Alberto, du coup, c'est un copain de Grenoble qui est écologue, qui a été beaucoup aussi militant Gilets jaunes. Et du coup, il vient faire plusieurs conférences, donc on va peut-être pas le présenter à chaque fois, mais là, il fait une conférence justement pour expliquer les virus Donc sa conférence avait été faite avant le Covid, hein. Donc là il l'a remise à jour avec le Covid, mais voilà, c'est un constat qui est partagé par beaucoup de naturalistes et de scientifiques, mais les virus principaux qu'on retrouve, notamment le Covid, sont dus à l'élevage intensif, sont dus à la perte de la biodiversité, sont dus à la destruction de l'environnement, et en fait c'est qu'un début. Clairement, et que si on prend, parce que là on met beaucoup d'argent, beaucoup de choses pour le passeport sanitaire, pour la vaccination, pour tout ça, mais en fait on va pas chercher le fond du problème, hein, qui est la destruction de l'environnement et de la nature. Donc du coup là, ça parle de ça en fait, de cette perte de biodiversité qui emmène des nouveaux virus, et notamment le changement climatique. On peut le voir là en Antarctique, en fait la fonte du permafrost, ça va créer encore plus de nouveaux virus qui seront quand même sûrement bien plus conséquents que le Covid.
Et ensuite, toujours dans le même temps, atelier éco-syndicalisme animé par Patrick Farbiaz.
Ouais, donc Patrick, c'est un des cofondateurs de PEPS. Voilà, et du coup, qui anime donc, l'éco-syndicalisme, c'est pareil, c'est un courant. C'est comment faire converger, alors qu'il y a le syndicaliste dans le monde du travail, et l'éco-syndicaliste, ça dépasse un peu le monde du travail, c'est-à-dire que comment créer du contre-pouvoir citoyen sur des luttes écologiques. En s'inspirant du syndicalisme justement et de la tradition syndicale et de la lutte syndicale. Donc c'est quelque chose qui en France à l'heure actuelle n'existe très peu. Voilà, et donc du coup l'idée c'est aussi de commencer à lancer au niveau national déjà commencer à parler de ce courant-là, de l'éco-syndicalisme. Donc là, notamment, il va y avoir quelqu'un de la lutte de Grand Puy, donc des gens qui luttent face à Total, là, qui viendront aussi participer à cet atelier. Il y aura notamment des personnes gilets jaunes, il y aura voilà, des syndicalistes qui viendront, il y aura des gens d'Extinction Rebellion. Et voilà, et du coup, c'est commencer à en parler déjà et à populariser ce terme-là et voir quelles alliances on peut faire au niveau national aussi pour mettre des collectifs en pratique.
Toujours mardi, à partir de 14h, encore deux propositions. L'une concerne l'histoire de la domestication animale avec Valérie Chansigo. Donc ça sera une conférence. Débat par la suite.
Il y a toujours, à chaque conférence ou table ronde, il y a toujours après des débats, des échanges voilà, avec les personnes présentes. Donc là, Valérie Chansigo, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si on va détailler tout le programme, mais en tout cas, voilà, Valérie Chansigo, c'est aussi quelque chose d'important parce que nous, dans PEPS, on défend aussi une conception animaliste. Alors d'autres appellent ça antispéciste, on n'est pas tous d'accord avec ce terme-là, mais en tout cas, voilà, pour nous, c'est la libération animale sera sûrement une libération qui sera dans les années à venir. On commence à en parler beaucoup. Et voilà, nos objectifs, c'est notamment aussi de faire converger le milieu animaliste avec le milieu écologiste, qui pour le moment, quand même, ne sont pas forcément des courants qui se parlent beaucoup, en tout cas, et qui ne sont pas forcément d'accord. Et pour nous, c'est important de reposer le problème. Et le problème, c'est la domestication. Et voilà, et donc Valérie Chansigo, c'est une historienne de l'environnement et qui, du coup, a été vraiment étudier l'histoire de la domestication et comment on a domestiqué les animaux et pour les faire devenir quoi, et à quelle fin et à quel but. Et voilà, et nous, on a envie de poser aussi ce problème-là de en fait, pourquoi on domestique des animaux, à quoi ça sert et tout ça, quoi.
Il y aura ensuite Nils Anderson avec « Le capitalisme, c'est la guerre ». Ensuite, à 16h30, il y aura de la théologie et du progressisme avec Stéphane Lavignotte, Nadia Kirat et Ludovic Mohamed Zahed. Gilets jaunes aussi, avec l'héritage et perspectives en questionnement. Et tout ça, ce sera avec Odile Morin et des Gilets jaunes.
On n'avait pas encore les noms.
Et puis après, la présentation d'un livre, « Algérie, la seconde révolution », en présence des auteurs autrices.
Ah, c'est vrai que pour revenir juste sur la table ronde sur la théologie et le progressisme, donc Stéphane Lavignotte, par exemple, c'est un pasteur, c'est lui qui anime le mouvement de lutte contre le réchauffement, les mouvements climat en tout cas, c'est vraiment le coordinateur de la convergence des religieux, on va dire, dans les luttes pour le climat. Voilà, qui vient, c'est aussi un militant de PEPS, hein, c'est un penseur de la décroissance. Et ils ont un point commun avec Ludovic Mohamed Zaheb, qui lui est imam. Et en fait, les deux sont aussi pour un rapprochement des luttes LGBT et des mouvements religieux, en fait, où ils estiment que dans les livres saints, en fait, la religion n'est pas aussi binaire que ce qu'on peut... Enfin, la religion, pardon, la sexualité n'est pas aussi binaire que ce qu'on peut penser, mais qu'au contraire, en fait, l'homosexualité ou l'hétérosexualité n'était pas quelque chose de conceptualisé, et que la sexualité, finalement, était assez libre. entre personnes du même sexe ou pas. Et du coup, là, il parle beaucoup de ça. Et pour montrer que bah, les religions ne sont pas forcément quelque chose de fermé aussi sur elles-mêmes et qu'il y a des gens qui veulent l'ouvrir à l'émancipation.
En soirée à 21h, il y aura des tables rondes avec un confédéralisme démocratique, avec la participation du Conseil démocratique kurde en France et du mouvement des femmes kurdes, et ainsi que Mathieu Léonard et Raphaël Lebrudja. Ça fait beaucoup de personnes qui vont parler donc de ce problème de du Kurdistan.
Ouais, alors du coup, on le voit pas sous forme de problème, mais au contraire de plutôt de solutions.
Oui, il y aura plusieurs tables rondes, donc il y aura des animations quoi à chaque table.
Ouais.
Ce sera pas tout le monde qui s'exprime, chacun son tour.
Et voilà, et là, c'est justement pour mettre en action aussi où Raphaël Lebrudja, donc c'est un copain de Peps qui a été passé un an au Rojava, qui a écrit un bouquin, qui est sorti. Mathieu Léonard, c'est quelqu'un qui est rédacteur d'un journal qui s'appelle CQFD. Qui a fait toute une publication là justement sur le municipalisme libertaire. Et voilà, et là l'idée c'est de montrer en fait bah, c'est quoi en pratique le confédéralisme. Et avec des choses très pratico-pratiques et puis des questionnements. Et du coup, vu que c'est en soirée, effectivement, on est un peu plus libre sur le temps. Voilà, c'est le seul soir où il n'y a pas forcément quelque chose de culturel, on va dire. Voilà, parce que le programme est dense.
Oui.
Mais en tout cas voilà, c'était aussi l'idée de mettre beaucoup de place à cette histoire du municipalisme.
Le PEPS traite de divers sujets au point que vous n'avez pas le sentiment de vous égarer parfois.
Non, je pense qu'il y a quand même une cohérence à la base sur justement l'écologie populaire, l'éducation populaire, le côté social qui fait que l'écologie, c'est pas seulement les petits oiseaux et les abeilles. C'est aussi les gens qui vivent autour de nous, que ce soit en ville ou à la campagne. Et on peut pas faire abstraction de la culture des gens quand on parle d'écologie. Donc pour moi, ce n'est pas en parlant de municipalisme, en parlant de théologie, on parle aussi d'écologie.
Oui, tout à fait d'accord.
D'ailleurs, Françoise, vous, quels sont vos rôles dans cette organisation ?
Je suis militante à PEPS, je n'ai pas de rôle particulier. J'ai représenté avec une autre personne PEPS dans les discussions qu'on a pu avoir avec les autres partis de gauche au moment des élections régionales et départementales, mais je n'ai pas de rôle particulier.
Depuis quelques mois, divers lieux culturels sont occupés, comme les théâtres ou le cinéma a dit pour l'alternance. Est-ce que vous vous orientez sur ce public qui, justement, se questionne sur l'actualité ?
J'y fais partie des membres actifs de l'occupation du théâtre et du cinéma a dit. Donc oui, on se préoccupe aussi de... En fait, c'est pas qu'on se préoccupe, c'est qu'on fait partie de ces gens-là. Il n'y a pas à dire on va s'occuper de certaines personnes, on est ces gens-là.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est pareil. Je travaille dans la culture, j'en ai fait partie. Et c'est vrai que c'est vraiment important, je pense, de différencier ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas un parti d'élus ou de militants professionnels. C'est-à-dire que, en fait, les luttes, les actions, on les vit. On fait partie de ce microcosme. On fait partie des citoyens. Enfin, on est des citoyens, en fait.
Que ça soit des citoyens de quartier populaire ou des citoyens engagés dans des luttes, quelles qu'elles soient, on est ces citoyens-là. Et ce que disait Fabien tout à l'heure, on a des militants qui sont de tout milieu, de toute origine, et on va pas présenter la bonne parole dans un quartier parce que nous, on arrive, on sait. Non, c'est des gens du quartier qui vivent dans le quartier, qui connaissent le quartier, qui sont militants PEPS. Voilà. Et de la même manière, dans l'occupation des théâtres, c'était aussi comme ça, quoi. Après, dans tous les milieux, en fait, on peut avoir des militants PEPS qui représentent PEPS, mais qui sont avant tout des gens de leur ville, de leur campagne, de leur quartier, de leur culture. Enfin bon, voilà.
Nous passons au mercredi 25 août, avec toujours en matinée à 9h30 des ateliers et des discussions. Alors, à commencer par théologie et écologie.
C'est pour faire la suite. En fait, les ateliers du matin, c'est souvent la suite des tables rondes ou des conférences de la veille. Mmh. Voilà, c'est pour parce que c'est vrai que on fait souvent intervenir des paroles d'intellectuels ou de militants aguerris, on va dire, l'après-midi. C'est aussi pour nous une forme, c'est important de connaître les choses, d'avoir des personnes références et ressources aussi, c'est important. Et par contre, le matin, effectivement, on a envie de plus mettre en pratique et par le biais d'outils d'éducation populaire notamment ou autre, et faire, si on invite plus de s'impliquer, de faire travailler les gens, de faire de la réflexion collective aussi, de l'intelligence collective, c'est vraiment le matin est dédié à ça. Et parce que aussi dans nos fonctionnements en général, c'est aussi le matin, on est quand même vachement plus apte à être dans la pratique, où l'après-midi, on est plus apte à être dans l'écoute. et donc, on a aussi fait sous cette forme-là. Donc, c'est vrai que le matin, on va retrouver à 80% la suite des discussions de la veille, quoi.
Toujours le matin avec François Longerina sur l'économie solidaire et sociale.
Ouais, François Longerina, qui est aussi un copain de PEPS, qui est notamment le coordinateur des rencontres de l'ESS, l'écologie sociale et solidaire en France. Donc c'est vraiment une personne un peu référente sur ce sujet-là. Et donc du coup, là, c'est aussi discuter de c'est quoi l'ESS à l'heure actuelle. Parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de dérives dans l'ESS. Et puis moi, avec une autre casquette syndicale, du coup, on s'aperçoit, notamment dans le milieu associatif ou autre, c'est souvent là qu'on rencontre les plus grosses dérives. Parce qu'on fait un travail militant, on est exploité. Et donc, l'ESS, elle a bon dos sur certaines fois. Et du coup, c'est voir un peu qu'est-ce que c'est l'ESS, qu'est-ce que ça peut être, comment on peut faire changer un système économique par ce biais-là, mais aussi quels sont les freins aussi de certaines formes de SS et de mélange entre militantisme et travail, quoi.
Ensuite, l'après-midi à 14h, une conférence de Leïla Chaibi concernant la lutte contre l'ubérisation. Là aussi, vous défendez aussi au niveau du travail.
Ouais, ça fait partie de l'ubérisation. C'est quand même la représentation même du libéralisme économique comme on le voit actuellement, c'est-à-dire des gens exploités sans contrat de travail, sans assurance.
Sans droit.
Sans droit, voilà. Et du coup, Leïla Chaibi, donc c'est une députée européenne France Insoumise, qui vraiment, elle, fait un travail très intéressant et de lutte vraiment sur ce sujet-là. Et donc, du coup, on l'invite à venir parler de sa lutte dans l'Union européenne, quoi, là-dessus.
Toujours en même temps, l'émancipation des droits des personnes en situation de handicap avec Odile Morin. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qu'on n'écoute pas, les personnes handicapées ou à réduction d'autonomie, sont pas tellement entendues en quelque sorte.
On les voit jamais, ou rarement en tout cas dans les médias mainstream.
Ça c'est clair.
Et même en politique d'ailleurs. Et du coup, Odile Morin, c'est pareil, c'est aussi une copine de PEPS qu'on a la chance d'avoir, qui est de Toulouse, qui est élue... élue dans l'opposition à Toulouse, qui a été une copine gilet jaune, qui a été en procès, soi-disant, parce qu'elle aurait agressé des policiers, alors qu'on rappelle qu'elle est en fauteuil roulant, quand même. Donc, elle a perdu son procès, c'est quand même assez extraordinaire.
C'est complètement fou,
et pendant les luttes des gilets jaunes. Donc, c'était aussi une manière de la faire taire, et même de faire taire, en fait, les personnes... qu'on ait handicap physique. Et donc, elle vient parler, elle a monté une association justement pour défendre les personnes avec des handicaps. Donc, elle vient en parler, parler de ça. Et puis, on espère qu'il y aura d'autres personnes aussi qui subissent des discriminations par rapport à ça, qui viendront s'exprimer.
Toujours aux mêmes heures, table ronde avec l'écoféminisme, on en parlait en début d'émission. Et là, le thème est capitalisme et patriarcat, même combat, avec Jeanne Burga, Sandrine Rousseau et Sophie Aristoui.
Donc, on l'a rappelé tout à l'heure ce que c'est que l'écoféminisme, mais pour nous, effectivement, la destruction de l'environnement vient du capitalisme. Et donc là, on invite donc Jeanne Burga-Goudal, qui était là l'année dernière, qui est une philosophe, qui elle est vraiment là pendant le confinement. En plus, elle s'est fait quand même pas mal connaître parce qu'elle est passée dans beaucoup de choses sur Internet et tout ça, de table ronde autour de l'écoféministe. C'est une des représentantes nationales de ce courant-là. Après, Sandrine Rousseau, actuellement, elle est à Europe Écologie Les Verts et elle se présente à la primaire des Verts. Qui viendra aussi parce que c'est une militante féministe de longue date. Et Sophie Aristoui, donc elle, c'est une militante, elle a créé elle est cofondatrice du mouvement Génération Écologie de Delphine Bateau, qu'ont justement tout un courant aussi de pensée écoféministe que nous on estime intéressant, même si on se retrouve pas sur plein d'autres idées avec ce parti politique. En tout cas, sur le courant écoféminisme, on a des convergences et donc du coup, c'est aussi ce qu'on veut montrer sur ces rencontres, c'est-à-dire que on peut créer des ponts et des passerelles et des alliances avec avec certains militants d'autres mouvements politiques sur des actions très précises, et on a aussi envie de leur donner la parole parce qu'on estime qu'ils sont légitimes. Et donc c'est aussi nous, notre propre conception de l'écoféminisme, elle est encore à construire, comme beaucoup de nos réflexions, et j'espère qu'elles le seront toujours en construction. Et donc on s'inspirera aussi de ces femmes qui réfléchissent depuis longue date sur ces choses-là. Donc c'est important pour nous de les entendre et de converger.
À la suite, à 16h30, table ronde avec toujours Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PEPS, les régions et peuples solidaires et le REV, c'est ?
REV, c'est le mouvement d'Emeric Caron, le journaliste, écrivain, qui a monté un parti politique qui se rapproche quand même assez fort de PEPS. En termes de valeurs, eux, c'était vraiment la défense des animaux, leur première chose, mais ils ont... Contrairement au parti animaliste, par exemple, ils ont vraiment une conception sociale aussi de l'approche environnementaliste. Donc, pour nous, nous intéresse beaucoup plus que le parti animaliste où il faut juste sauver des chats et des chiens. Et là, on aura notamment Manuel Bompard, qui est un député France Insoumise, qui viendra. Donc, il y a Sandrine Rousseau. Il y a le représentant de Régions et Peuples Solidaires. Donc, c'est les régionalistes de gauche. Il y aura aussi le mouvement politique Ensemble. L'idée, en fait, c'est de voir ce que nous, ça nous intéresse pas forcément d'être un mouvement de plus qui va se présenter à les élections pour avoir des places. C'est pas vraiment notre créneau. Et donc, c'est aussi voir quelles sont les convergences possibles par moment, ou les divergences d'ailleurs aussi, c'est très important de les souligner. Ce qui fait la différence. Et donc, voir quelle aussi convergence il peut y avoir sur des luttes, sur des élections, sur des moments précis. Là, on se retrouve quand même face à une problématique qui est un gouvernement quand même qui se droitise énormément, voire s'extrême droitise sur certaines formes, que l'extrême droite, elle a gagné complètement l'hégémonie culturelle en France, qu'elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir, voire si elle ne l'est pas actuellement. Quand on a Marine Le Pen qui est choquée des propos du Premier ministre, c'est quand même assez inquiétant. Donc il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on mette en place à gauche. Il y a aussi une autocritique à gauche à faire, parce que on pense que les mouvements de gauche ont délaissé certaines populations, ont délaissé certaines idées, ont délaissé beaucoup de choses pour des places, on va dire. Et donc c'est aussi comment on reconstruit justement maintenant une gauche écologiste qui parle aux gens, en fait, parce que là,
une
je pense
gauche humaine, ouais. qui s'occupe des gens, qui est les gens.
C'est ça. Où on n'est pas sur un piédestal dans son petit bureau, quoi.
Ensuite, ça traitera des perspectives politiques, comme vous l'avez un peu décrit. La conférence ensuite, c'est Renaud Duterme, « De quoi l'effondrement est-il le nom ?» Voilà, alors des inégalités au cœur de la catastrophe, c'est tout à fait d'actualité.
Oui, complètement. Et puis Renaud Duterme, c'est un géographe belge qui viendra aussi présenter son livre à la suite de la soirée qui s'appelle Petit manuel pour une géographie de combat. Et effectivement, ces inégalités, l'effondrement, c'est le système capitaliste, productiviste, qui crée cet effondrement écologique actuel. Et lui, il s'inspire d'un paradigme urbanistique, en tout cas, ou géographe, et notamment sur l'aménagement du territoire et comment l'aménagement du territoire actuellement est pensé. Pour un développement capitaliste et productiviste, même au niveau agricole, au niveau de l'urbanisation, au niveau de pas mal de choses, c'était pensé autrement. Et notre façon d'habiter la terre, le territoire, a changé. Et du coup, il vient un peu expliquer ça. Et ce changement crée notamment énormément d'inégalités. Donc l'inégalité, ça va être, par exemple, sur les services publics en milieu rural, ça va être l'accès à des commerces de proximité, mais ça va être aussi dans les quartiers populaires où, concrètement, à part une grande surface, il n'y a rien. Il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de crèche. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut aussi... Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on brasse beaucoup de sujets parce qu'on pense que Françoise, elle l'a expliqué, mais que les sujets sont liés, en fait, tout un lien. Et du coup, notamment, l'aménagement du territoire, la géographie est pensée d'une certaine manière et on aimerait bien la penser différemment.
Et pour finir cette journée, il y aura à 21h30 une conférence gesticulée de Mathieu Dalmès de La Fourche à la Fourchette, non l'inverse.
Ouais, donc là, c'est une conférence gesticulée, c'est pour une sécurité sociale alimentaire. Donc pareil, on défend beaucoup les communs à PEPS et on pense notamment que la France est un pays riche et qu'elle peut redistribuer beaucoup de choses. Et notamment ce qu'on appelle les communs. Donc les communs, c'est aussi bien l'alimentation, ça va être l'eau, ça va être un pourcentage d'énergie, par exemple. Ça va être des transports publics gratuits. Ça va être ce genre de choses. Et on pense que, notamment, bah, là, la sécurité sociale alimentaire, dans une société où il y a quand même 10% de gens qui mangent pas à leur faim en France, et ben, c'est quelque chose d'important qu'on est dans une société qui crée beaucoup de malbouffe, beaucoup de gaspillage, beaucoup de choses. Et c'est justement revoir un peu, au même titre que la sécurité sociale, en fait, tout court, c'est comment on peut créer une sécurité sociale alimentaire, comment on peut défendre une agriculture paysanne, comment on peut financer aussi ce genre de choses. Et donc, du coup, il vient faire une conférence. Lui, c'est un ingénieur, Mathieu Dalmé, voilà, donc avec son positionnement d'ingénieur. Et du coup, le lendemain matin, on fait des ateliers avec plutôt un positionnement de paysan. Voilà, parce que c'est deux positionnements qui sont convergents, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a la conférence gesticulée le matin et le soir, et le lendemain matin, il y a plutôt des ateliers sur voilà, comment maintenant mettre ça sur les territoires. Et on le répète, mais c'est, on pense que c'est au territoire de mettre ça en place et pas à l'État, forcément.
Et on en revient avec cette dernière matinée, donc du jeudi 26 août. Et là, c'est justement créer un groupe local de PEPS animé par Majorie Caters et vous-même. Donc, c'est ce que vous essayez de faire un peu partout, donc de créer des représentations locales du PEPS.
Ouais, bah c'est vrai que bah c'est compliqué hein, d'animer, de créer un parti politique quand on n'a pas de personnalité forte, on va dire, de leader, de chef et tout ça, de personnes médiatiques. Bah en fait, on est vraiment un vent politique qui part de la base. Hein, je pense qu'on est quasiment le seul en fait à avoir fait ça. Donc du coup voilà, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont compliquées, il y a des accompagnements qui sont mis en place. On n'est pas forcément face à des militants professionnels. Donc du coup, c'est comment on les accompagne, comment on les forme. C'est dur des fois d'être 2-3 militants par territoire, donc c'est aussi voilà, avoir un accompagnement là-dessus. Et puis finalement, qu'est-ce qui va faire vivre aussi des groupes locaux? Nous à Grenoble, on a la chance d'avoir un groupe local assez fort. C'est aussi, bah, c'est pas parce qu'on s'est présenté à des élections qu'on est fort, mais c'est parce qu'on est sur les luttes, on est sur le terrain, on organise des choses, des événements culturels, des choses citoyennes qui font réfléchir les gens, l'éducation populaire, et du coup c'est voilà, on a aussi envie de montrer ça à PEPS, et vu que pour nous c'est vraiment les groupes locaux qui vont faire la force de PEPS et non le national, parce qu'il n'existe pas vraiment, et ben du coup voilà, c'est les groupes locaux sont aussi indépendants les uns des autres tout en étant en lien. Et donc, du coup, c'est important pour nous que ces groupes locaux-là, ils soient effectifs, quoi.
Justement, là, vous parliez tout à l'heure d'une organisation un peu du PEPS, de sa structuration même. Justement, quels sont les points d'intérêt prioritaires pour vous? Et justement, est-ce qu'il y a convergence sur ces domaines précis, par exemple?
Alors, on vient tous de cultures quand même assez variées, donc, mais avec des envies communes. Donc, ce n'est pas forcément simple, hein, mais ce n'est pas plus mal. Mais du coup, là, en tout cas, l'idée, ce n'est vraiment pas du tout d'avoir un fonctionnement centraliste, comme on le retrouve dans 90% des partis politiques. Mais c'est justement que chaque fédération locale soit quand même vraiment autonome, avec une existence administrative autonome, avec des fonctionnements autonomes. On a une charte des valeurs. Cette charte des valeurs, il faut qu'elle soit respectée, c'est quand même le minimum. Après, on essaye, justement, on a quand même un comité de coordination national pour faire le lien, justement, avec toutes les fédérations un peu locales. On a des groupes thématiques aussi. Et voilà, il peut y avoir un représentant de groupe thématique dans la coordination nationale, il peut y avoir des représentants de groupes locaux. On avait aussi des mouvements, des fois des petits mouvements politiques ou des petits collectifs qui nous rejoignent, des associations ou autres. Et du coup, pareil, chaque collectif, association, mouvement politique qui nous rejoint, ils ont aussi deux représentants au comité national. Et voilà, justement, ces rencontres-là vont aussi nous permettre de nous aider à nous structurer davantage.
À la suite, atelier, toujours écoféminisme, avec Jeanne Burgard qu'on retrouve et j'ai Sophie Aristoui. Ensuite, sécurité sociale de l'alimentation avec Dominique Paturel, qui parle du collectif Démocratie Alimentaire. On peut présenter un peu cette...
Ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est oui. La suite de la conférence gesticulée de la veille, du coup, où c'est un atelier ouvert à tout le monde pour parler de la sécurité sociale de l'alimentation, comment elle peut être financée, mise en pratique... voilà, servir un peu de l'intelligence collective des participants pour créer une dynamique et des réflexions communes.
Ensuite, à 14h, un grand moment, la venue de Eva Joly pour une conférence aussi, qui a été candidate aux élections présidentielles de 2017, qui était aussi juge d'instruction lors de sa carrière en justice. Et là, elle est là justement pour parler de la corruption et de la lutte contre elle.
Alors, moi, je voudrais quand même vous reprendre. Ce n'est pas un grand moment, c'est un des moments de PEPS. Parce que à PEPS, ce qui est important, c'est les débats, c'est les gens, c'est ce que chacun apporte. Il peut y avoir des gens comme Eva Joly qui sont plus connus, mais ce n'est pas un grand moment. C'est important, ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Non, mais tout à fait. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est au même titre que les autres. Hein. Ouais. Et qu'on l'a fait venir, justement, par rapport à la corruption, et pas par rapport à son mandat électoral qu'elle a pu avoir, notamment en Europe, enfin pour l'Union européenne. Et du coup, là, elle a fait un travail qui était, avant d'être chez Les Verts, elle a fait un travail qui était quand même remarquable, notamment par rapport à ELF, sur la lutte contre la corruption. Marie, qu'elle n'a pas pu forcément aller au bout, parce qu'on sait quand même les convergences entre les États et les multinationales, quand il s'agit de corruption. Et donc, du coup, voilà, elle vient expliquer aussi son travail, ce qu'elle a pu faire, les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Et voilà, on estime que c'est quelque chose de très important et d'intéressant aussi.
Une table ronde ensuite sur le soulèvement des terres écologiques et des terres et écologie populaire, avec des représentants comme Kevin Bema Vacher, Fatima Ouossak, Dolores Mijatovic et Benoît Hazard. Tout ça animé par Marjorie Keters, toujours.
Ouais, bah là, pour reprendre ce que disait François, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont des gens de terrain. Qui viennent expliquer leur lutte, mélangés à des intellectuels universitaires du CNRS comme Benoît Hazard, qui a plus intellectualisé la chose. Et donc là, voilà, c'est parler en fait ce qu'on appelle nous. Donc il y a un mouvement en tout cas qui est soulèvement des terres. Là, vous avez une personne dans la Drôme qui s'appelle Corinne Morel-Darleux, qui fait partie quand même de ce collectif depuis pas mal de temps, qui l'a initié même entre autres. Et donc voilà, et ce soulèvement des terres, c'est lutter en fait contre tous les projets, ce qu'on appelle les grands projets inutiles, mais c'est aussi l'urbanisation des terres, la déforestation et tout un tas de choses comme ça. Et ce qu'on nous on appelle l'écologie populaire, parce que l'écologie populaire, elle n'est pas que dans les quartiers populaires, elle est aussi dans les milieux ruraux, elle est partout en fait. L'écologie populaire, c'est comment on permet à chacun en fait de vivre dans une société écologique. Et donc du coup voilà, pour ça, par exemple Dolores Mijatovic, c'est une militante des jardins ouvriers d'Aubervilliers qui vient parler de ça. Fatima Ouossak, c'est donc une personne qui était intervenue l'année dernière déjà, qu'on aime beaucoup à PEPS, qui est très intéressante parce qu'elle essaye de faire de liens justement entre les milieux antiracistes des quartiers populaires et l'écologie radicale. Elle fait un travail remarquable par exemple avec Extinction Rebellion ou Alternatiba. Elle a monté une maison d'écologie populaire à Bagnolet, dans la région parisienne, qui s'appelle Mondragon. Voilà, et du coup, elle fait des choses assez remarquables. Et en termes de convergence des luttes, c'est une personne assez référente, comme Kevin Bema Vacher, qui est un Marseillais aussi, qui était présent en tant que public l'année dernière et du coup qu'on a voulu faire intervenir cette année, qui a participé notamment à quelque chose qu'on appelle l'après-M à Marseille. Donc en fait, c'est des gens de quartier populaire qui ont repris un McDonald's et qu'on en fait un lieu d'écologie populaire et sociale. Et donc voilà, on trouve ça quand même le symbole très fort et très positif. Et voilà, et lui, c'est un sociologue et en même temps, c'est une personne militante de terrain qui a cofondé notamment les Rencontres des Justices. Qui a fait émerger les primaires populaires, notamment pour la présidentielle. Donc voilà, c'est aussi c'est important pour nous de mélanger des gens très différents sur l'écologie populaire, parce que l'écologie populaire, je le répète, mais ça concerne tout le monde en fait. Et là, on est face à souvent des écologies. Moi, pour venir de Grenoble, par exemple, on est face à une écologie pour riches, en fait, clairement, qui concerne les riches des centres-villes et les gens des quartiers populaires, les gens des alentours, en fait, des banlieues proches. Ça nous concerne peu, oui, au final.
D'accord, ce qu'ils font de la ville neuve à Grenoble.
Oui, oui, clairement. Donc voilà.
Ensuite, plénière, comment regrouper l'écologie de rupture? Alors, qu'est-ce que c'est une écologie de rupture?
Justement, là, pour faire transition avec ce que je disais tout à l'heure sur la mairie de Grenoble, il y a plusieurs mots, on n'est pas forcément tous d'accord sur les termes, mais c'est pas trop ça l'important. Mais l'écologie de rupture, en fait, c'est une écologie qui est anticapitaliste. Là, on estime que le mouvement écologiste en France, actuellement, il n'est pas en rupture avec le capitalisme ou avec le libéralisme. Il l'accompagne au final. Alors, il peut faire des choses qui peuvent être bien de temps en temps, mais il ne changera pas la face du monde, quoi. Et donc, du coup, c'est, voilà, c'est, on estime qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en France et même un peu ailleurs, enfin, beaucoup ailleurs, qui aussi ont envie, en fait, de quand on parle d'écologie, c'est pas forcément éteindre son robinet quand on se brosse les dents ou faire plus de vélo. C'est aussi lutter contre les multinationales, c'est aussi lutter contre un système, en fait. Et donc, du coup, voilà, pour ça, enfin, on invite des personnes qu'on estime en tout cas porteuses de cette envie de fédérer une écologie de rupture. Donc elles souffrent de l'écologie, donc c'est un courant, on va dire, des Verts qui est plutôt à gauche, seul courant de gauche des Verts. Rejoignons-nous. Donc là, c'est un collectif aussi de militants, de citoyens, d'intellectuels, voilà, qui a Rêve aussi, donc on en parlait tout à l'heure, le mouvement d'Aymeric Caron. Il y a Christine Poupin, donc, qui est militante au NPA, qui fait partie de la commission écologie du NPA. Et voilà, après, il y aura d'autres gens aussi qui vont se rajouter au fur et à mesure. Mais voilà, c'est important pour nous, justement, de se dire, nous, à PEPS, on n'est pas, notre objectif, ce n'est pas que PEPS prenne le pouvoir, mais c'est que les idées de PEPS, en tout cas, soient mises en avant. Et si c'est dans PEPS et si ça sera ailleurs dans 2 ans, ça sera ailleurs dans 2 ans, ce n'est pas très grave. Mais du coup, là, c'est comment on converge, en fait, avec des personnes, parce qu'on estime que c'est d'abord des individus, des adhérents, des militants qui font les mouvements politiques. Et les mouvements politiques, ils se défont et ce n'est pas très grave, ça, au final.
Il y aura aussi conférence-discussion avec Florian Alberto, hein, qu'on retrouve de nouveau, sur la gestion de la crise sanitaire, donc une critique. Et ensuite, Yann Faure, qui fait le lien entre le Covid-19 et l'élevage intensif, notamment la fourrure. Dans le notamment, on peut trouver d'autres termes aussi.
Oui.
À partir du moment où on concentre des centaines, voire des milliers d'individus d'une même espèce dans un espace réduit, forcément, les maladies se propagent très vite. Alors, Covid ou autre, hein, il y a la grippe aviaire cet hiver qui s'est propagée dans les élevages de canards, de volailles. Donc, effectivement, il faut remettre en cause toute cette manière d'exploiter le vivant.
On peut remarquer aussi le décalage, je me souviens des premières épidémies de grippe aviaire chez les volatiles, justement, je crois que c'était dans les années 90 ou 2000, où on abattait par millions des bêtes, et ça occupait une grande place médiatique, où de nos jours, c'est peut-être même passé dans les petits articles en bas de page, ce type d'événement.
Malheureusement, on s'habitue.
Ça a été banalisé.
Mais en fait, la catastrophe écologique est d'une ampleur tellement forte maintenant qu'on n'en fait plus trop attention. Mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais d'hégémonie culturelle qui est passée à l'extrême droite. C'est un peu comme le racisme avant, quand il y avait une phrase raciste qui passait par une personnalité politique ou médiatique. Ça faisait une semaine de tapage médiatique. Maintenant, c'est quotidien, le racisme dans les médias.
Et sans tapage.
Et sans tapage, sans rien. Enfin, on a un Éric Zemmour, quand même, qui appelle à virer les musulmans de France. C'est classique. Enfin, voilà, c'est devenu... Et en fait, tout ce qui concerne maintenant l'écologie, l'exploitation, le racisme, les discriminations, c'est du fait divers. Alors que c'est un problème très grave, au final. Quoi. Et maintenant, on préfère s'intéresser à des choses beaucoup plus futiles, au final.
Xavier Ricard sera à découvrir avec la présentation de son livre « Demain la planète, 4 scénarios de déglobalisation ».
Xavier Ricard, du coup, on a une petite pensée pour lui parce que c'est un ami de PEPS aussi qui a beaucoup travaillé notamment avec un Dromois qui s'appelle Pablo Servigne, qu'ils ont écrit des livres ensemble. Mmh. Et là, malheureusement, il ne pourra pas venir parce qu'il a des graves soucis de santé. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement en espérant que ça aille mieux. Du coup, voilà, pour le coup, il ne pourra pas venir.
Donc suspendu.
Effectivement, mais par contre, vous pouvez lire son livre, qui serait dans toutes les bonnes librairies. Voilà.
Et pour terminer la soirée avec un concert de l'Envoûtante, accompagné de Ceausescu, à la suite. Donc l'Envoûtante, ça sera peut-être le morceau que l'on mettra, qui s'intitule d'ailleurs, vous l'avez mis en lien, « Demain j'arrête ».
Ouais.
Voilà, demain j'arrête. Et je voulais savoir votre engagement pour l'écologie, c'est depuis quel âge ?
Alors moi, je sais pas. En fait, moi je viens d'un milieu rural, j'ai fait un bac pro agricole, dans un truc que je déteste, c'est-à-dire la vente animalerie. Du coup, je crois que c'est en travaillant pour des trucs que je déteste que je me suis aperçu que je les détestais et que j'ai eu un attrait à l'écologie. Et comme beaucoup de jeunes de mon âge, années 90, quoi, c'est-à-dire que bah, je me suis intéressé beaucoup à l'écologie par Nicolas Hulot et je l'ai vite dépassé, fort heureusement. Et là, je me retrouve à militer notamment dans un mouvement politique où il y a une des personnalités qui m'a fait évoluer intellectuellement, qui s'appelle Paul Ariès. Du coup, c'est quand même assez cool. Mais si on se maintenant, on arrive à trouver des points de désaccord, notamment sur l'animalisme et l'élevage. Mais du coup, moi, je sais pas, ça doit faire, j'ai 35 ans et ça doit faire 15-20 ans quoi, que ça m'intéresse avec des évolutions de plus en plus radicales.
Alors que moi, c'était plus. J'ai toujours été militante de gauche. Bon, je suis beaucoup plus vieille. Hein. J'ai commencé à militer au début des années 80, voire fin des années 70. Et le glissement, il s'est fait insidieusement. Je ne peux pas dire, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans. Ça s'est fait insidieusement. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui une préoccupation qui devient majeure parce qu'on s'aperçoit bien que la planète dont on est habitant... elle va sans doute nous éjecter si on ne fait pas quelque chose, quoi. Mais ça s'est fait graduellement. Je ne peux pas dire depuis quand je fais attention à ma consommation d'eau, à ma consommation électrique, à ce que je mange, à leur provenance. Enfin bon, je peux pas le dire, mais c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps.
Alors, cette semaine, du 23 au 26 août, ce sera au domaine de Damion, en Drôme provençal, à Vesque précisément. Et pour ça, il y a des infos pratiques à connaître. L'entrée est libre. Ensuite, il y a des nuits en gîte à 15 euros ou des nuits en camping à 5 euros. Et parfois, des propositions de repas bio, locaux ou végétariens à 10 euros. Donc ça, c'est pour les personnes qui viendraient passer la globalité de ces rencontres. Et puis pour en connaître un peu plus, les sites internet, à commencer par Perpsicer,
nous on a mis le site, alors quand on a fait les flyers, en fait il n'y avait que sur le site internet de, pour dire à quel point on est super bien organisé, il n'y avait que sur le site internet de l'Isère où il y avait le programme en entier, parce que le site internet national, il est toujours d'ailleurs un peu en reconstruction, donc du coup on a mis ce site, mais sinon il y a le site internet aussi de national qui regroupe plus d'informations sur qu'est-ce que c'est PEPS notamment, quoi.
Et je voudrais quand même juste corriger quelque chose, l'entrée n'est pas libre, mais à prix libre.
Oui.
C'est pas tout à fait la même chose, parce que les conférences, l'organisation, l'allocation du lieu, tout ça, ça a un coût. Et sans dire que les conférenciers sont payés des milliers d'euros, on les défraie quand même. Ils viennent parfois de loin, il faut quand même les défrayer. Et pour ça, il faut quand même qu'on rentre un minimum de participation de chaque personne. C'est une participation libre et consciente.
C'est ça. Et les gens peuvent venir, par exemple, pareil, en gîte ou en camping, ils peuvent venir une seule nuit s'ils ont envie aussi, manger qu'un seul repas, ils ont envie de manger qu'un seul repas. C'est pas obligé de venir les 4 jours, hein. On sait bien
en
que...
En pension complète.
En pension complète, voilà. Et même s'il y a des gens qui veulent venir profiter du gîte, parce qu'en vrai, le gîte, il est chouette, il y a 5 hectares, il y a une piscine, il y a un terrain de foot, il y a plein de choses. Du coup, il y a une mare pédagogique, il y a un terrain d'aventure. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et rien que pour des vacances, déjà, c'est chouette. Et du coup, ça permet aussi de passer des vacances moins chères qu'ailleurs, on va dire.
Et des vacances utiles.
Eh bien, je vous remercie tous deux, Françoise Boireau et Fabien Giverneau, d'être venus nous présenter ce week-end donc, des rencontres écologie populaire et sociale qui aura lieu donc, à Vesque du 23 au 26 août. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'arrête demain de me demander à quelle tribu j'appartiens. ou de quel foutoir culturel je proviens. J'arrête demain d'arpenter ces terrains pentus à la recherche des pans de culture qui nous servent de lien. Car dis-toi bien que tenter de remonter jusqu'aux crêtes, les bassins versants qui ont irrigué l'intérieur de nos têtes ne mènent à rien. Piètres éclaireurs que nous sommes, combien vont s'enfoncer dans ces ravins sans fin. Moins que pire encore, certains n'y découvrent un de ces déserts identitaires, capables de faire taire les curieux de ma race les plus déterres. Identité dans les dents, la banalité a pris les devants. Il reste que chi, que dalle, du vide, du vent. On se dit enfant du rock, enfant du hip-hop ou fils de l'époque. Tu parles, on a tous nos clones aux quatre coins du globe. Le même drapeau américain planté dans le cul, les mêmes vannes pourries pour les ploucs qui soi-disant n'étaient pas dans le coup. C'est fou, on l'a cherché partout, la chaleur du crew, avec médaillon Zulu autour du cou ou avec Walou. Et oui, la greffe a pris, ok, la branche donne des fruits, mais le tronc se pose des putains de questions depuis. Du genre qui je suis, hein, rebelle endurci ou un dindon de plus que l'impérialisme a farci. Et ces questions de fond, on pourrait y passer la nuit, mais encore ça resterait les vacances à côté de ceux qui y passeront leur vie. Allez, j'arrête demain de saouler le clan familial afin d'en éclairer les moindres recoins. J'ai brandi l'origine paysanne comme un butin. Ben putain, qu'est-ce qu'on retient? Beaucoup moins d'actes que de baratins. Les anciens seraient bien foutus de la gueule de mon jardin ou de la corne qui manque au creux de mes mains. Allez, j'ai fait tout un foin avec mes racines, mais j'arrête demain, parce que quand le doute revient, je paye l'addition et je fais moins le malin. Allez, j'arrête demain de me débattre tout seul dans mon coin, paumé aux confins de la gratitude et du dédain. Je remercierai jamais assez les guides qui ont ouvert le chemin. J'emmerderai jamais assez ceux qui ont vendu le truc en se croyant malin aussi. J'arrête demain cette boulimie culturelle sans frein. Enfin, c'est ainsi qu'on parvient à ses fins. Je vois un peuple mondialisé qui cherche en vain la diversité des sources qu'il a lui-même asséché et restreint. Et je crains que fouiller toutes ces zones commerciales ne serve point à combler ma dalle et mes besoins d'humain, puisqu'on y avale tant de films, de musique, de bouquins, mais qu'au final on en digère presque rien. Luxueux paradoxe, hein, les stress de l'époque, les inondations qui provoquent la sécheresse des récoltes, sûrement pas les plus à plaindre. Nous, nos frigos sont pleins, n'empêche, nos estomacs identitaires ont faim. J'arrête demain de tenter par tous les moyens d'authentifier les filiations de nos infinies définitions, parce que c'est un mythe, une fiction. Personne ne pourra plus cartographier nos constellations trop complexes. Personne ne sait de quel métal nos mentales sont forgés, de quelle orgie d'étoiles, de quels minerais sommes-nous faits, qui ont engorgé nos ciels irradiés et nous maintiennent dressés sur nos deux pieds. Depuis, le cosmos me stimule, me pousse à jacter, éclaire plus fort nos cartes d'identité. Voie lactée, mais t'as capté comment la vie nous tire vers des rationalités que même la poésie la plus impactante ne saura pas impacter. Allez, j'arrête demain, gamberge et philosophie, vu ce que ça induit en prise de notes, en prise de tête, en prise de bec, en prise de nerf. Alors on simplifie, car l'identité est plus complexe qu'elle en a l'air. On fait des selfies, moi je veux un scanner, et ces réflexions à outrance me rendent fou. Les inextricables réseaux d'influence me rendent flou. Alors bien sûr qu'on tient debout, mais même à 39 piges, il arrive que le vertige vienne faire trembler mes genoux. Des fois je rêve d'une pointe perméable, d'une limite claire, mais je n'ai que la porosité de mes frontières cellulaires. Alors je me laisse envahir par le monde. Bien sûr que j'essaie de me détendre, mais je vois bien que mon psoriasis continue de s'étendre. Je veux pouvoir me défendre sans créer de rupture, garder le contact avec les purs et durs comme avec les pires ordures. Tant pis pour l'armure, je m'ouvre aux caresses et aux morsures, et je tiens la baraque de ma culture.